Chapitre 5, les Atrides, l'horoscope. Depuis son retour à Paris, Henri d'Anjou n'avait pas encore revu librement sa mère Catherine, dont, comme chacun sait, il était le fils bien-aimé. En effet, Catherine préférait réellement ce fils, soit pour sa bravoure, soit plutôt pour sa beauté, car il y avait, outre la mère, de la femme dans Catherine, soit enfin parce que, suivant quelques chroniques scandaleuses, Henri d'Anjou rappelait à la Florentine certaines heureuses époques de mystérieuses amours. Catherine savait seule le retour du duc d'Anjou à Paris, retour que Charles IX eût ignoré si le hasard ne l'eût point conduit en face de l'hôtel de Condé au moment même où son frère en sortait. Charles ne l'attendait que le lendemain et Henri d'Anjou espérait lui dérober les deux démarches qui avaient avancé son arrivée d'un jour et qui étaient sa visite à la belle Marie de Clèves, princesse de Condé, et sa conférence avec les ambassadeurs polonais. Aussi, lorsque le duc d'Anjou, longtemps attendu, entra chez sa mère, Catherine, si froide, si compassée d'habitude, Catherine, qui n'avait depuis le départ de son fils bien-aimé embrassé avec effusion que Coligny, qui devait être assassiné le lendemain, ouvrit ses bras à l'enfant de son amour et le serra sur sa poitrine avec un élan d'affection maternelle qu'on était étonné de trouver encore dans ce cœur desséché. Puis elle s'éloignait de lui, le regardait et se reprenait encore à l'embrasser. « Ah, madame, lui dit-il, puisque le ciel me donne cette satisfaction d'embrasser sans témoin ma mère, consoler l'homme le plus malheureux du monde. Eh mon Dieu, mon cher enfant, s'écria Catherine, que vous est-il donc arrivé ? Rien que vous ne sachiez, ma mère, je suis amoureux, je suis aimé, mais c'est cet amour même qui fait mon malheur à moi. Expliquez donc cela, mon fils, dit Catherine. « Eh, ma mère, ces ambassadeurs, ce départ... »« Oui, dit Catherine, ces ambassadeurs sont arrivés, ce départ presse. »« Il ne presse pas, ma mère, mais mon frère le pressera, il me déteste, je lui fais ombrage, il veut se débarrasser de moi. » Catherine sourit, en vous donnant un trône, pauvre malheureux couronné. « Oh, n'importe, ma mère, reprit Henri avec angoisse, je ne veux pas partir. » Moi, un fils de France, élevé dans le raffinement des mœurs polies, près de la meilleure mère, aimé d'une des plus charmantes femmes de la terre, j'irai là-bas dans ces neiges, au bout du monde, mourir lentement parmi ces gens grossiers qui s'enivrent du matin au soir et jugent les capacités de leur roi sur celles d'un tonneau selon ce qu'il contient. Non, ma mère, je ne veux point partir, j'en mourrai. « Voyons, Henri, dit Catherine en pressant les deux mains de son fils, voyons, est-ce là la véritable raison ? Henri baissa les yeux, comme s'il n'osait, à sa mère elle-même, avouer ce qui se passait dans son cœur. « N'en est-il pas une autre ? » demanda Catherine, moins romanesque, plus raisonnable, plus politique. « Ma mère, ce n'est pas ma faute si cette idée m'est rentrée dans l'esprit, et peut-être y tient-elle plus de place qu'elle n'en devrait prendre. Mais ne m'avez-vous pas dit vous-même que l'horoscope tiré à la naissance de mon frère Charles le condamnait à mourir jeune ? Son horoscope parlait d'un quart de siècle, mais il ne disait pas si c'était pour sa vie ou pour son règne. Eh bien, ma mère, faites que je reste. Mon frère a près de 24 ans. Dans un an, la question sera résolue. Catherine réfléchit profondément. Oui, certes, dit-elle, ce serait mieux si cela se pouvait ainsi. Oh, jugez donc, ma mère, s'écria Henri, quel désespoir pour moi si j'allais avoir troqué la couronne de France contre celle de Pologne, être tourmenté là-bas de cette idée que je pourrais régner au Louvre au milieu de cette cour élégante et lettrée, près de la meilleure mère du monde, dont les conseils m'eussent épargné la moitié du travail et des fatigues, qui, habitué à porter avec mon père une partie du fardeau de l'État, eût bien voulu la porter encore avec moi. Ah, ma mère, j'eusse été un grand roi. « Là, là, cher enfant, dit Catherine, dont cet avenir avait toujours été aussi la plus douce espérance, là, ne vous désolez point, n'avez-vous point songé de votre côté à quelque moyen d'arranger la chose ?»« Oui, certes, oui, et c'est surtout pour cela que je suis revenu 2 ou 3 jours plus tôt qu'on ne m'attendait, tout en laissant croire à mon frère Charles que c'était pour Madame de Condé. » Puis j'étais au-devant de Lascaux, le plus important des envoyés, je me suis fait connaître de lui, faisant dans cette première entrevue tout ce qui était possible pour me rendre haïssable, et j'espère y être parvenu. « Oh, mon cher enfant, dit Catherine, c'est mal. Il faut mettre l'intérêt de la France avant vos petites répugnances. » Ma mère, l'intérêt de la France veut-il en ce malheur arriver à mon frère, que ce soit le duc d'Alençon ou le roi de Navarre qui règne? Oh, le roi de Navarre, jamais, jamais, murmura Catherine, en laissant l'inquiétude couvrir son front de ce voile soucieux qui s'y étendait chaque fois que cette question se représentait. Ma foi, continua Henri, mon frère d'Alençon ne vaut guère mieux et ne vous aime pas davantage. Enfin, reprit Catherine, qu'a dit Lascaux? Lascaux a hésité lui-même quand je l'ai pressé de demander audience. Oh, s'il pouvait écrire en Pologne, casser cette élection. Folie, mon fils, folie, ce qu'une diète a consacré est sacré. Mais enfin, ma mère, ne pourrait-on pas, à ces Polonais, leur faire accepter mon frère à ma place? C'est sinon impossible, du moins difficile, répondit Catherine. N'importe, essayez, tentez, parlez au roi, ma mère. Rejetez tout sur mon amour pour Madame de Condé, dites que j'en suis fou, que j'en perds l'esprit. Justement, il m'a vu sortir de l'hôtel du prince avec Guise, qui me rend là tous les services d'un bon ami. Oui, pour faire la ligue, vous ne voyez pas cela, vous, mais je le vois. Si fait, ma mère, si fait, mais en attendant juste de lui. Et ne sommes-nous pas heureux quand un homme nous sert en se servant? Et qu'a dit le roi en vous rencontrant? Il a paru croire ce que je lui ai affirmé, c'est-à-dire que l'amour seul m'avait ramené à Paris. Mais du reste de la nuit, ne vous a-t-il pas demandé compte? Si fait, ma mère, mais j'ai été souper chez Nantouillet, où j'ai fait un scandale affreux pour que le bruit de ce scandale se répandît et que le roi ne doutât point que j'y étais. Alors, il ignore votre visite à Lascaux? Absolument. Bon, tant mieux. J'essaierai donc de lui parler pour vous, cher enfant, mais vous savez, sur cette rude nature, aucune influence n'est réelle. Oh, ma mère, quel bonheur si je restais, comme je vous aimerais plus encore que je ne vous aime, si c'était possible. Si vous restez, on vous enverra encore à la guerre. Or, peu importe, pourvu que je ne quitte pas la France. Vous vous ferez tuer. Ma mère, on ne meurt pas des coups, on meurt de douleur, d'ennui. Mais Charles ne me permettra point de rester, il me déteste. Il est jaloux de vous, mon beau vainqueur, c'est une chose dite. Pourquoi aussi êtes-vous si brave et si heureux? Pourquoi, à 20 ans à peine, avez-vous gagné des batailles comme Alexandre et comme César? Mais, en attendant, ne vous découvrez à personne, feignez d'être résigné, faites votre cour au roi. Aujourd'hui même, on se réunit en conseil privé pour lire et pour discuter les discours qui seront prononcés à la cérémonie. Faites le roi de Pologne et laissez-moi le soin du reste. À propos, et votre expédition d'hier soir? Elle a échoué, ma mère. Le galant était prévenu et il a pris son vol par la fenêtre. Enfin, dit Catherine, je saurai un jour quel est le mauvais génie qui contrarie ainsi tous mes projets. En attendant, je m'en doute et malheur à lui. Ainsi, ma mère, dit le duc d'Anjou, laissez-moi mener cette affaire. Et elle baisa tendrement Henri sur les yeux en le poussant hors de son cabinet. Bientôt arrivèrent chez la reine les princesses de sa maison. Charles était en belle humeur, car l'aplomb de sa sœur Margot l'avait plus réjoui qu'affecté. Il n'en voulait pas autrement à la Mole, et il l'avait attendue avec quelque ardeur dans le corridor, parce que c'était une espèce de chasse à l'affût. D'Alençon, tout au contraire, était très préoccupé. La répulsion qu'il avait toujours eue pour la Mole s'était changée en haine du moment où il avait su que la Mole était aimée de sa sœur. Marguerite avait tout ensemble l'esprit rêveur et l'œil au guet. Elle avait à la fois à se souvenir et à veiller. Les députés polonais avaient envoyé le texte des harangues qu'ils devaient prononcer. Marguerite, à qui l'on n'avait pas plus parlé de la scène de la veille que si la scène n'avait point existé, lut les discours et, hormis Charles, chacun discuta de ce qu'il répondrait. Charles laissa Marguerite répondre comme elle l'entendrait. Elle se montra très difficile sur le choix des termes pour d'Alençon, mais quant au discours de Henri d'Anjou, il y apporta plus que du mauvais vouloir, il fut acharné à corriger et à reprendre. Cette séance, sans rien faire éclater encore, avait lourdement envenimé les esprits. Henri d'Anjou, qui avait son discours à refaire presque entièrement, sortit pour se mettre à cette tâche. Marguerite, qui n'avait pas eu de nouvelles du roi de Navarre depuis celle qui avait été donnée au détriment des vitres de sa fenêtre, retourna chez elle dans l'espérance de l'y voir venir. D'Alençon, qui avait lu l'hésitation dans les yeux de son frère d'Anjou et surpris entre lui et sa mère un regard d'intelligence, se retira pour rêver à ce qu'il regardait comme une cabale naissante. Enfin Charles allait passer dans sa forge pour achever un épieu qu'il se fabriquait lui-même lorsque Catherine l'arrêta. Charles, qui se doutait qu'il allait rencontrer chez sa mère quelque opposition à sa volonté, s'arrêta et la regarda fixement. « Eh bien, dit-il, qu'avons-nous encore ? Un dernier mot à échanger, sire. Nous avons oublié ce mot, et cependant, il est de quelque importance. Quel jour fixons-nous pour la séance publique ?»« Ah, c'est vrai, dit le roi en se rasseyant. Causons-en, mère. Eh bien, à quand vous plaît-il que nous fixions le jour ?»« Je croyais, répondit Catherine, que dans le silence même de votre majesté, dans son oubli apparent, il y avait quelque chose de profondément caché. » « Non, dit Charles, pourquoi cela, ma mère ?»« Parce que, ajouta Catherine très doucement, il ne faudrait pas, ce me semble, mon fils, que les Polonais nous vissent courir avec tant d'âpreté après cette couronne. »« Au contraire, ma mère, dit Charles, ils se sont hâtés, eux, en venant à marche forcée de Varsovie ici, honneur pour honneur, politesse pour politesse. » Vous savez que je n'ai d'avis que ceux qui peuvent le plus concourir à votre gloire. Je vous dirai donc qu'en vous pressant ainsi, je craindrais qu'on ne vous accusât de profiter bien vite de cette occasion qui se présente de soulager la maison de France des charges que votre frère lui impose, mais que, bien certainement, il lui rend en gloire et en dévouement. Ma mère, dit Charles, à son départ de France, je doterai mon frère si richement que personne n'osera même penser ce que vous craignez que l'on dise. Allons, dit Catherine, je me rends, puisque vous avez une si bonne réponse à chacune de mes objections, mais pour recevoir ce peuple guerrier qui juge de la puissance des États par des signes extérieurs, il vous faut un déploiement considérable de troupes, et je ne pense pas qu'il y en ait assez de convoqués dans l'île de France. Pardonnez-moi, ma mère, car j'ai prévu l'événement et je me suis préparé. J'ai rappelé deux bataillons de la Normandie, un de Guyenne. Ma compagnie d'archers est arrivée hier de Bretagne, les chevaux légers répandus dans la Touraine seront à Paris dans le courant de la journée, et tandis qu'on croit que je dispose à peine de 4 régiments, j'ai 20 000 hommes prêts à paraître. « Ah, dit Catherine, surprise, alors il ne vous manque plus qu'une chose, mais on se la procurera. Et laquelle ?» « De l'argent, je crois que vous n'en êtes pas fourni outre mesure. » « Au contraire, madame, au contraire, dit Charles IX, j'ai 1 400 000 écus à la Bastille. Mon épargne particulière m'a remis ces jours passés 800 000 écus que j'ai enfouis dans mes caves du Louvre, et en cas de pénurie, Nantouillet tient 300 000 autres écus à ma disposition. » Catherine frémit, car elle avait vu jusqu'alors Charles violent et emporté, mais jamais prévoyant. « Allons, fit-elle, votre majesté, pense à tout, c'est admirable, et pour peu que les tailleurs, les brodeuses et les joailliers se hâtent, votre majesté sera en état de donner séance avant 6 semaines. »« 6 semaines ? » s'écria Charles. « Ma mère, les tailleurs, les brodeuses et les joailliers travaillent depuis le jour où l'on a appris la nomination de mon frère. À la rigueur, tout serait prêt pour aujourd'hui, mais à coup sûr, tout sera prêt dans 3 ou 4 jours. » « Oh, murmura Catherine, vous êtes plus pressé encore que je ne le croyais, mon fils. Honneur pour honneur, je vous l'ai dit. Et voir un fils de France sous le trône de Pologne est votre plus cher désir. Vous dites vrai. Alors c'est le fait, c'est la chose, et non l'homme qui vous préoccupe, et quel que soit celui qui règne là-bas. » non pas, ma mère Corbeuf, demeurons-en où nous sommes. Les Polonais ont bien choisi. Ils sont adroits et forts, ces gens-là. Nation militaire, peuple de soldats, ils prennent un capitaine pour prince. C'est logique, peste. D'Anjou fait leur affaire. Le héros de Jarnac et de Moncontour leur va comme un gant. Qui voulez-vous que je leur envoie? D'Alençon? Un lâche, cela donnerait une belle idée des Valois. D'Alençon, il fuirait à la première bataille qui lui sifflerait aux oreilles. Tandis que Henri d'Anjou, un batailleur, bon, toujours l'épée au poing, toujours marchant en avant, à pied ou à cheval, hardi, pique, pousse, assomme, tue. Ah, c'est un homme que mon frère d'Anjou, un vaillant, qui va les faire battre du matin au soir depuis le premier jusqu'au dernier jour de l'année. Il boit mal, c'est vrai, mais il les fera tuer de sang-froid, voilà tout. Il sera là dans sa sphère, ce cher Henri. Sus, sus, au champ de bataille, bravo les trompettes et les tambours, vive le roi, vive le vainqueur, vive le général. On le proclame impérator 3 fois l'an. Ah, ce sera admirable pour la maison de France et l'honneur des Valois. Il sera peut-être tué, mais ventre Mahon, ce sera une mort superbe. Catherine frissonna et un éclair jaillit de ses yeux. « Ah, dites, s'écria-t-elle, que vous voulez éloigner Henri d'Anjou, dites que vous n'aimez pas votre frère !»« Ah !» fit Charles en éclatant d'un rire nerveux, « vous avez deviné cela, vous, que je voulais l'éloigner, vous avez deviné cela, que je ne l'aimais pas. Et quand cela serait, voyons, aimer mon frère, pourquoi donc l'aimerais-je ? Ah, est-ce que vous voulez rire ?» Et à mesure qu'il parlait, ses joues pâles s'animaient d'une fébrile rougeur. « Est-ce qu'il m'aime, lui ? Est-ce que vous m'aimez, vous ? Est-ce que, excepté mes chiens, Marie Touchet et ma nourrice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'ait jamais aimé ? Non, non, je n'aime pas mon frère, je n'aime que moi, entendez-vous, et je n'empêche pas mon frère d'en faire autant que j'en fais. » « Sire, dit Catherine, s'animant à son tour, puisque vous me découvrez votre cœur, il faut que je vous ouvre le mien. Vous agissez en roi faible, en monarque mal conseillé. Vous renvoyez votre second frère, le soutien naturel du trône, et qui est en tout point digne de vous succéder, si vous advenez malheur, laissant dans ce cas votre couronne à l'abandon. Car, comme vous le disiez, d'Alençon est jeune, incapable, faible, plus que faible, lâche, et le Béarnais se dresse derrière, entendez-vous ? Eh, mort de tous les diables, s'écria Charles, qu'est-ce que ça me fait ce qui arrivera quand je n'y serai plus? Le Béarnais se dresse derrière mon frère, dites-vous, Corbeuf, tant mieux. Je disais que je n'aime personne, je me trompais, j'aime Henriot, oui, je l'aime ce bon Henriot, il a l'air franc, la main tiède, tandis que je ne vois autour de moi que des yeux faux et ne touche que des mains glacées. Il est incapable de me trahir, lui, j'en jurerais. La foudre tombant aux pieds de Catherine l'eut moins épouvantée que ses paroles. Elle demeura atterrée, regardant Charles d'un air hagard. Puis enfin, au bout de quelques secondes, « Henri de Navarre » s'écria-t-elle, « Henri de Navarre, roi de France, au préjudice de mes enfants. Ah, sainte Madone, nous verrons. C'est donc pour cela que vous voulez éloigner mon fils ?»« Votre fils ? Et que suis-je donc, moi, un fils de louf comme Romulus ?» s'écria Charles, tremblant de colère et l'œil scintillant comme s'il se fût allumé par place. « Votre fils, vous avez raison, le roi de France n'est pas votre fils. Lui, le roi de France n'a pas de frère, le roi de France n'a pas de mère, le roi de France n'a que des sujets. Le roi de France n'a pas besoin d'avoir des sentiments, il a des volontés. Il se passera qu'on l'aime, mais il veut qu'on lui obéisse. » « Sire, vous avez mal interprété mes paroles. J'ai appelé mon fils celui qui allait me quitter. Je l'aime mieux en ce moment parce que c'est lui qu'en ce moment je crains le plus de perdre. Est-ce un crime à une mère de désirer que son enfant ne la quitte pas ? Et moi je vous dis qu'il vous quittera. Je vous dis qu'il quittera la France, qu'il s'en ira en Pologne et cela dans 2 jours. Si vous ne baissez pas le front, si vous n'éteignez pas la menace de vos yeux, je l'étrangle ce soir, comme vous vouliez qu'on étrangla hier l'amant de votre fille. Seulement, je ne le manquerai pas, moi, comme nous avons manqué la Mole. » Sous cette première menace, Catherine baissa le front, mais presque aussitôt elle le releva. « Ah, pauvre enfant, dit-elle, ton frère veut te tuer. Eh bien, sois tranquille, ta mère te défendra. » « Ah, l'on me brave !» s'écria Charles. « Eh bien, par le sang du Christ, il mourra. Non pas ce soir, non pas tout à l'heure, mais à l'instant même. Ah, une arme, une dague, un couteau. Ah !» Et Charles, après avoir porté inutilement les yeux autour de lui pour chercher ce qu'il demandait, aperçut le petit poignard que sa mère portait à sa ceinture, se jeta dessus, l'arracha de sa gaine de chagrin incrustée d'argent et bondit hors de la chambre pour aller frapper Henri d'Anjou partout où il le trouverait. Mais en arrivant dans le vestibule, ses forces surexcitées au-delà de la puissance humaine l'abandonnèrent tout à coup. Il étendit le bras, laissa tomber l'arme aiguë qui resta fichée dans le parquet, jeta un cri lamentable, s'affaissa sur lui-même et roula sur le plancher. En même temps, le sang jaillit en abondance de ses lèvres et de son nez. « Jésus, dit-il, on me tue, à moi, à moi !» Catherine, qui l'avait suivi, le vit tomber. Elle regarda, un instant impassible et sans bouger, puis, rappelée à elle, non par l'amour maternel, mais par la difficulté de la situation, elle couvrit en criant. « Le roi se trouve mal, au secours, au secours !» À ce cri, un monde de serviteurs, d'officiers et de courtisans s'empressèrent autour du jeune roi. Mais avant tout le monde, une femme s'était élancée, écartant les spectateurs et relevant Charles pâle comme un cadavre. « On me tue, nourrice, on me tue !» murmura le roi, baigné de sueur et de sang. « On te tue, Mon Charles, s'écria la bonne femme en parcourant tous les visages avec un regard qui fit reculer jusqu'à Catherine elle-même. Et qui donc cela? Qui te tue? Charles poussa un faible soupir et s'évanouit tout à fait. Ah, dit le médecin Ambroise Paré, qu'on avait envoyé chercher à l'instant même. Ah, voilà le roi, bien malade. Maintenant, de gré ou de force, se dit l'implacable Catherine, il faudra bien qu'il accorde un délai. En sortant de l'oratoire où elle venait d'apprendre à Henri d'Anjou tout ce qui s'était passé, Catherine avait trouvé René dans sa chambre. C'était la première fois que la reine et l'astrologue se revoyaient depuis la visite que la reine lui avait faite à sa boutique du pont Saint-Michel. Seulement la veille, la reine lui avait écrit et c'était la réponse à ce billet que René lui apportait en personne. « Eh bien, lui demanda la reine, l'avez-vous vu ?»« Oui. »« Comment va-t-il »« Plutôt mieux que mal. » Et peut-il parler? Non, l'épée a traversé le larynx. Je vous avais dit en ce cas de le faire écrire. J'ai essayé, lui-même a réuni toutes ses forces, mais sa main n'a pu tracer que deux lettres à peine illisibles, puis il s'est évanoui. La veine jugulaire a été ouverte et le sang qu'il a perdu a ôté toutes ses forces. Avez-vous vu ces lettres? Les voici. René tira un papier de sa poche et le présenta à Catherine, qui le déplia vivement. « Un M et un O, dit-elle. Serait-ce décidément ce Lamole, et toute cette comédie de Marguerite ne serait-elle qu'un moyen de détourner les soupçons ?»« Madame, dit René, si j'osais émettre mon opinion dans une affaire où votre majesté hésite à former la sienne, je lui dirais que je crois que monsieur de Lamole est trop amoureux pour s'occuper sérieusement de politique. Aurait-il eu recours à vous ?»« Oui. » « Et il vous a demandé quelques breuvages, quelques filtres ?» Non, nous nous en sommes tenus à la figure de cire. Piqué au cœur? Piqué au cœur. Et cette figure existe toujours? Oui, elle est chez vous? Elle est chez moi. Il serait curieux, dit Catherine, que ces préparatifs cabalistiques eussent réellement l'effet qu'on leur attribue. Votre Majesté est plus que moi à même d'en juger. La reine de Navarre aime-t-elle monsieur de Lamole? Ah, elle l'aime au point de se perdre pour lui. Hier, elle l'a sauvé de la mort au risque de son honneur et de sa vie, vous voyez, madame, et cependant, vous doutez toujours. De quoi? De la science. C'est qu'aussi la science m'a trahi, dit Catherine en regardant fixement René, qui supporta admirablement bien ce regard. En quelle occasion? Ah, vous savez ce que je veux dire. À moins toutefois que ce soit le savant et non la science. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, madame, répondit Florentin. « René, vos parfums ont-ils perdu leur odeur ?»« Non, madame, quand ils sont employés par moi, mais il est possible qu'en passant par la main des autres. » Catherine sourit et hocha la tête. « Votre opiat a fait merveille, René, dit-elle, et madame de Sauve a les lèvres plus fraîches et plus vermeilles que jamais. Ce n'est pas mon opiat qu'il faut en féliciter, madame, mais seulement la baronne de Sauve, usant du droit qu'a toute jolie femme d'être capricieuse, ne m'a plus demandé de cet opiat, et moi, de mon côté, après la recommandation que m'avait faite votre majesté, j'ai jugé à propos de ne lui en point envoyer. Les boîtes sont donc toutes encore à la maison telles que vous les y avez laissées, moins une qui a disparu sans que je sache quelle personne me l'a prise ni ce que cette personne a voulu en faire. « C'est bien, René, dit Catherine, peut-être plus tard reviendrons-nous là-dessus. En attendant, parlons d'autre chose. J'écoute, madame. » Que faut-il pour apprécier la durée probable de la vie d'une personne? Savoir d'abord le jour de sa naissance, l'âge qu'elle a et sous quel signe elle a vu le jour, et puis ensuite, avoir de son sang et de ses cheveux. Et si je vous porte de son sang et de ses cheveux, si je vous dis sous quel signe il a vu le jour, si je vous dis l'âge qu'il a, le jour de sa naissance, vous me direz, dites-vous, l'époque probable de la mort? Oui, à quelques jours près. « C'est bien, j'ai de ses cheveux, je me procurerai de son sang. La personne est-elle née pendant le jour ou pendant la nuit ?»« À 5h23 du soir. »« Soyez demain à 5h chez moi, l'expérience doit être faite à l'heure précise de la naissance. »« C'est bien, dit Catherine, nous y serons. » René salua et sortit sans paraître avoir remarqué ce « nous y serons » qui indiquait cependant que, contre toutes ses habitudes, Catherine ne viendrait pas seule. Le lendemain, au point du jour, Catherine passa chez son fils. À midi, elle avait fait demander de ses nouvelles, et on lui avait répondu que maître Ambroise Paré était près de lui et s'apprêtait à le saigner si la même agitation nerveuse continuait. Encore tressaillant dans son sommeil, encore pâle du sang qu'il avait perdu, Charles dormait sur l'épaule de sa nourrice qui, appuyée sur le lit, n'avait point depuis 3 heures changé de position de peur de troubler le repos de son cher enfant. Une légère écume venait poindre de temps en temps sur les lèvres du malade et la nourrice l'essuyait avec une fine batiste brodée. Sur le chevet était un mouchoir tout maculé de larges taches de sang. Catherine eut un instant l'idée de s'emparer de ce mouchoir, mais elle pensa que ce sang, mêlé comme il était à la salive qu'il avait détrempée, n'aurait peut-être pas la même efficacité. Elle demanda à la nourrice si le médecin n'avait pas saigné son fils, comme il lui avait fait dire qu'il le devait faire. La nourrice répondit que si, et que la saignée avait été si abondante que Charles s'était évanoui 2 fois. La reine-mère, qui avait quelques connaissances en médecine, comme toutes les princesses de cette époque, demanda à voir le sang. Rien n'était plus facile, le médecin avait recommandé qu'on le conservât pour en étudier les phénomènes. Il était dans une cuvette dans le cabinet à côté de la chambre. Catherine y passa pour l'examiner, remplit de la rouge liqueur un petit flacon qu'elle avait apporté dans cette intention, puis rentra, cachant dans ses poches ses doigts dont l'extrémité eût dénoncé la profanation qu'elle venait de commettre. Au moment où elle repassait sur le seuil du cabinet, Charles rouvrit les yeux et fut frappé de la vue de sa mère. Alors, rappelant comme à la suite d'un rêve toutes ses pensées empreintes de rancune, « Hein, c'est vous, madame, dit-il, eh bien, annoncez à votre fils aîné, à votre Henri d'Anjou, que ce sera pour demain. »« Mon cher Charles, dit Catherine, ce sera pour le jour que vous voudrez, tranquillisez-vous et dormez. » Charles, comme s'il eût cédé à son conseil, ferma effectivement les yeux. Et Catherine, qui l'avait donné comme on fait pour consoler un malade ou un enfant, sortit de sa chambre. Mais derrière elle, et lorsqu'elle eut entendu se refermer la porte, Charles se redressa, et tout à coup, d'une voix étouffée par l'accès dont il souffrait encore, « Mon chancelier » cria-t-il, « les sceaux, la cour, qu'on me fasse venir tout cela !» La nourrice, avec une tendre violence, ramena la tête du roi sur son épaule, et, pour le rendormir, essaya de le bercer comme lorsqu'il était enfant. « Non, non, nourrice, je ne dormirai plus. Appelle mes gens, je veux travailler ce matin. » Quand Charles parlait ainsi, il fallait obéir, et la nourrice elle-même, malgré les privilèges que son royal nourrisson lui avait conservés, n'osait aller contre ses commandements. On fit venir ceux que le roi demandait, et la séance fut fixée non pas au lendemain, c'était chose impossible, mais à 5 jours de là. Cependant, à l'heure convenue, c'est-à-dire à 5 heures, la reine-mère et le duc d'Anjou se rendaient chez René, lequel, prévenu, comme on le sait, de cette visite, avait tout préparé pour la séance mystérieuse. Dans la chambre à droite, c'est-à-dire dans la chambre au sacrifice, rougissant sur un réchaud ardent, une lame d'acier destinée à représenter par ses capricieuses arabesques les événements de la destinée sur laquelle on consultait l'oracle. Sur l'autel était préparé le livre des sorts et pendant la nuit qui avait été fort claire, René avait pu étudier la marche et l'attitude des constellations. Henri d'Anjou entra le premier, il avait de faux cheveux, un masque couvrait sa figure et un grand manteau de nuit déguisait sa taille. Sa mère vint ensuite, et si elle n'eût pas su d'avance que c'était son fils qui l'attendait là, elle-même n'eût pu le reconnaître. Catherine ôta son masque, le duc d'Anjou, au contraire, garda le sien. « As-tu fait cette nuit tes observations ?» demanda Catherine à René. « Oui, madame, et la réponse des astres m'a déjà appris le passé. » Celui pour qui vous m'interrogez a, comme toutes les personnes nées sous le signe de l'écrevisse, le cœur ardent et une fierté sans exemple. Il est puissant, il a vécu près d'un quart de siècle, il a jusqu'à présent obtenu du ciel gloire et richesse. Est-ce cela, madame ? Peut-être, dit Catherine. Avez-vous les cheveux et le sang ? Les voici. Et Catherine remit au nécromancien une boucle de cheveux d'un blond fauve et une petite fiole de sang. René prit la fiole, la secoua pour bien réunir la fibrine et la sérosité, et laissa tomber sur la lame rougie une large goutte de cette chair coulante qui bouillonna à l'instant même et s'extravasa bientôt en dessins fantastiques. « Oh, madame !» s'écria René, « je le vois se tordre en d'atroces douleurs. Entendez-vous comme il gémit, comme il crie à l'aide? Voyez-vous comme tout devient sang autour de lui? Voyez-vous enfin autour de son lit de mort, comme s'apprête de grands combats? Ah, tenez, voici des lances, tenez, voici les épées !» Sera-ce long ? Demanda Catherine, palpitante d'une émotion indicible et arrêtant la main de Henri d'Anjou, qui, dans son avide curiosité, se penchait au-dessus du brasier. René s'approcha de l'autel et répéta une prière kabbalistique, mettant à cette action un feu, une conviction qui gonflait les veines de ses tempes et lui donnait des convulsions prophétiques. Et ces tressaillements nerveux qui prenaient les pitis antiques sur le trépied et les poursuivaient jusque sur leur lit de mort. Enfin, il se releva et annonça que tout était prêt, prit d'une main le flacon encore aux trois quarts plein et de l'autre la boucle de cheveux. Puis, commandant à Catherine d'ouvrir le livre au hasard et de laisser tomber sa vue sur le premier endroit venu, elle versa sur la lame d'acier tout le sang et jeta dans le brasier tous les cheveux, en prononçant une phrase kabbalistique composée de mots hébreux auxquels il n'entendait rien lui-même. Aussitôt, le duc d'Anjou et Catherine virent s'étendre sur cette lame une figure blanche comme celle d'un cadavre enveloppé de son suaire. Une autre figure qui semblait celle d'une femme était inclinée sur la première. En même temps, les cheveux s'enflammèrent et donnèrent un seul jet de feu, clair, rapide, dardé, comme une langue rouge. « Un an !» s'écria René, « un an à peine, et cet homme sera mort, et une femme pleurera seule sur lui. Mais non, là-bas, au bout de la lame, une autre femme encore, qui tient comme un enfant dans ses bras. » Un profond silence régna quelque temps autour du brasier. « Et pour celui que tu sais, » demanda Catherine, « quels sont les signes de ce mois ?»« Florissant, comme toujours, madame, à moins de vaincre le destin par une lutte de Dieu à Dieu, l'avenir est bien certainement à cet homme. Cependant, quoi ? Une des étoiles qui compose sa Pléiade est restée, pendant le temps de mes observations, couverte d'un nuage noir. »« Ah ! » s'écria Catherine, « un nuage noir ? Il y aurait donc quelque espérance ?» « De qui parlez-vous, madame ?» demanda le duc d'Anjou. Catherine emmena son fils loin de la lueur du brasier et lui parla à voix basse. Pendant ce temps, René s'agenouillait et, à la clarté de la flamme, versant dans sa main une dernière goutte de sang demeurée au fond de la fiole. « Bizarre contradiction, disait-il, et qui prouve combien peu sont solides les témoignages de la science sainte que pratiquent les hommes vulgaires. Pour tout autre que moi, pour un médecin, pour un savant, pour maître Ambroise Paré lui-même, voilà un sang si pur, si fécond, si plein de mordants et de sucs animaux qu'il promet de longues années au corps dont il est sorti, et cependant toute cette vigueur doit disparaître bientôt, toute cette vie doit s'éteindre avant un an. » Catherine et Henri d'Anjou s'étaient retournés et écoutaient. Les yeux du prince brillaient à travers son masque. « Ah !» continua René, « c'est qu'au savant ordinaire, le présent seul appartient, tandis qu'à nous appartiennent le passé et l'avenir. » « Ainsi donc, continua Catherine, vous persistez à croire qu'il mourra avant une année. » Aussi certainement que nous sommes ici trois personnes vivantes qui un jour reposeront à leur tour dans le cercueil. » « Cependant, vous disiez que le sang était pur et fécond. Vous disiez que ce sang promettait une longue vie. Oui, si les choses se suivaient leur cours naturel, mais il n'est pas possible qu'un accident... »« Ah oui, vous entendez, dit Catherine à Henri, un accident. »« Hélas, dit celui-ci, raison de plus pour demeurer. »« Oh, quant à cela, n'y songez plus, c'est chose impossible. » Alors, se retournant vers René, « Merci, dit le jeune homme en déguisant le timbre de sa voix. Merci, prends cette bourse. » « Venez, comte, » dit Catherine, donnant à dessein à son fils un titre qui devait dérouter les conjectures de René, et ils partirent. « Oh, ma mère, vous voyez, » dit Henri, « un accident, et si cet accident-là arrive, je ne serai point là, je serai à 400 lieues de vous. »« Oh, 400 lieues se font en 8 jours, mon fils. » « Oui, mais sait-on si ces gens-là me laisseront revenir? Que ne puis-je attendre, ma mère ?»« Qui sait, dit Catherine, cet accident dont parle René n'est-il pas celui qui, depuis hier, couche le roi sur un lit de douleur ?»« Écoutez, rentrez de votre côté, mon enfant, moi je vais passer par la petite porte du cloître des Augustins, ma suite m'attend dans ce couvent. Allez, Henri, allez, et gardez-vous d'irriter votre frère, si vous le voyez. »